9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Thierry Guillaume.
Bonjour Philippe Bondel.
Vous êtes producteur de télévision au sein de Label Aventure Productions et vous êtes l'heureux producteur de Pékin Express. La 14e saison démarre ce soir à 21h. Quand je dis heureux, c'est juste une formule, hein, parce que vous revenez de loin, à tous les sens du terme. Vous avez tourné à l'autre bout du monde, en pleine crise du Covid, avec des changements de date, de lieu, on va y revenir. Mais la 14e saison, quoi qu'il en soit, de Pékin Express, toujours présentée par Stéphane Rothenberg, démarre ce soir. Il s'agit toujours de parcourir 10 000 km avec 1 euro à dépenser par jour. Mais du point de vue de la mécanique, vous avez apporté deux grosses nouveautés. D'abord, la voiture bonus. C'est quoi la voiture bonus?
Alors, la voiture bonus, on a imaginé cette nouvelle règle du jeu parce qu'on a choisi une route où il y a très peu de circulation. On démarre en Ouganda. Et là-bas, il y a 80% de pistes et pas encore de route goudronnée. Donc, il y a moins de véhicules. Et on s'est dit que pour cette saison où le stop allait être difficile, c'était un beau cadeau pour un binôme. Donc, la voiture bonus, c'est une voiture gratos pendant 2 heures ou 1 heure et demie avec un chauffeur qui doit pouvoir permettre à un binôme de prendre l'avantage sur les autres. Donc alors, c'est une nouveauté pour cette saison.
Ouais. Que faut-il faire pour la voiture bonus? Il faut arriver dans les 4 premiers, mais en plus avoir de la chance qu'il y ait un tirage au sort.
Exactement.
Et puis, la nouveauté la plus frappante, c'est vraiment jubilatoire. Moi, j'ai eu la chance de voir la première émission qui va passer ce soir. Les participants atterrissent donc en Ouganda. Et là, énorme surprise.
Dans l'avion, ils sont assis confortablement. Et sur l'écran qui se trouve juste en face d'eux, il y a Stéphane Rothenberg qui leur fait une annonce et qui leur fait découvrir que la course va démarrer directement dans l'avion. C'est la première fois qu'on fait ça.
C'est-à-dire qu'ils sortent de l'aéroport et ils courent et ils ont chacun leur grosse valise.
Ça, c'est une grosse nouveauté aussi. On ne leur a pas donné de sac à dos cette année. Donc, ils démarrent avec leur valise à roulettes pour certains. Les roulettes ne vont pas durer longtemps. Mais c'est la première fois qu'on leur a fait cette surprise et ça donne des scènes plutôt cocasses.
Et la dernière, parce que maintenant, ils sont prévenus. Ils vont...
Ah ouais, alors tous les ans, on essaye d'imaginer des trucs nouveaux pour les surprendre. Mais cette année, c'est ça. Ça
et là,
marché,
ils ont des grosses valoches. Et quand c'est des candidats-filles, c'est encore plus jubilatoire. Chacune a sa technique pour porter ses grosses valises de X kilos.
Exactement.
Cette 14e saison s'appelle Sur les pistes de la Terre rouge, la couleur de la piste. L'animateur Stéphane Rothenberg et les candidats n'en sont toujours pas revenus.
C'est au petit matin que l'avion se pose enfin sur les terres rouges ougandaises.
On a de la verdure de partout, les routes sont un peu rouges.
Les candidats évoluent sur les pistes rouges africaines. Sur les pistes rouges d'Entebbe, Florent et Noël sont premiers. Les candidats évoluent à pied, avec leurs valises, sur les pistes rouges africaines.
Même si ces routes sont plein de trous, c'est leur
charme. Mais la terre rouge, c'est beau.
Voilà, on le saura que c'est rouge. Qui sont les candidats cette année? Comment vous les avez choisis? Comme d'hab?
Alors, si ouais, j'ose dire. Comme d'hab, mais c'est le casting, c'est une grosse partie de notre travail. Ça dure 3 mois et demi. On a chaque année environ 40 000 dossiers de candidature. Et on essaye toujours de trouver des personnages, des profils différents, des histoires différentes, interbinômes. On a par exemple cette année un père, le binôme qu'on a appelé le père Chic et la fille Choc, un père et sa fille. On a des candidats belges, on a des inconnus, deux candidats qui ne se connaissent pas, qui vont faire toute la route ensemble. Enfin, c'est un long process et on essaye de trouver des profils différents chaque année pour surprendre les téléspectateurs.
Il y a des collègues catalans, les frères Fétard, non pas Pétard, une tante et sa nièce sont les Belges. Et puis, comme toujours, deux personnages qui ne se connaissent pas et qui se découvrent dans l'avion. Là, il y a choc de génération et aussi choc de culture. C'est Sabine, elle a 50 ans, elle est prof de musique classique, elle est clarinettiste. Et Loïc, c'est un black de 33 ans, je le dis parce qu'on ne voit pas sa couleur de peau à la radio, qui rêve de devenir une star du rap, très sympathique. Sabine aussi, elle est assez active, sauf que Loïc n'est pas un grand sportif, mais il est très 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 dirigiste. Et dès la première épreuve, il s'agit de traverser un lac à la rame, et on sent que leurs deux caractères ne vont pas matcher.
Loïc, tu regardes l'eau, tu recommences.
Mais c'est parce que je me concentre sur mon geste.
Non, concentre-toi sur l'horizon. Et Sabine, je te jure, là tu fais comme si tu pagayais toute seule, alors que tu n'écoutes même pas ce que je te dis. Regarde, là on va faire que du comme ça. Si
tu
mets la rame par là, bah dis-le-moi, comme ça j'anticipe.
On est bien là?
Pas bien du tout.
Bah, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Je comprends pas ce qui va pas. On avance. On va pas vite, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas de moteur.
Mais je te parle pas d'aller vite, Sabine. Je te parle juste que j'en ai marre d'avancer comme ça. C'est tout. La Sandrine, on dérive.
Sabine.
Alors déjà, il connaît pas son nom. Et il y a une autre séquence au bord de la route où Loïc s'énerve. Il crie à Sabine, mais arrête de crier! Alors que c'est lui qui hurle, vous faites exprès. Vous êtes comme les petits garçons ou les petites filles qui mettent des insectes dans une boîte.
Exactement, mais parfois, les binômes qu'on assemble finissent par s'entendre remarquablement bien. Ouais. Parfois,
et là, le producteur que vous êtes est déçu.
Non, pas forcément.
Hitchcock disait, un bon film, c'est un bon méchant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une interaction entre les personnages.
Oui, mais l'évolution des personnages, c'est aussi un truc intéressant dans une histoire. Et parfois, les binômes d'inconnus finissent par bien s'entendre. De toute façon, ils ont un objectif commun. le plus loin possible ensemble. Donc, on aime bien les belles histoires aussi.
Alors, je rassure les fidèles de Pékin Express, il y a des nouveautés, mais on retrouve bien les invariants de l'émission, les potes qui s'engueulent, les candidats qui ne savent pas parler anglais, à croire qu'on ne donne pas de cours d'anglais en France depuis 50 ans. Vous avez fait encore plus fort avec Florent et Noël, c'est les collègues catalans. Non seulement ils sont postes, son pote, non seulement ils s'engueulent, mais en plus ils ne parlent pas anglais et ils s'engueulent à cause de ça.
Olma, for you?
C'est possible?
Attends, t'énerve pas, deux secondes.
Mais le prochain village...
Arrête, on n'est pas sur la bonne route! Arrête! Possible, et lungo, for you, et lungo. Ok.
On n'est pas sur la bonne route, hein? Mais je crois que tu regardais sur la carte.
Oh Noël, j'en ai marre, tu me coupes la parole quand je parle! Je parle avec la fille, j'entends rien!
Allez.
Non, mais Noël, je parle, mais j'ai galéré en anglais, tu peux parler derrière. Déjà que j'ai du mal à parler anglais.
Mais non, mais faut pas
parler en français.
Faut pas leur dire d'aller si loin.
Comme tu parles pas anglais, ne parle pas quand je parle.
C'est bon, Flo.
Ouais, c'est bon, mais tous les jours, dois-tu le rabâcher.
J'adore ce que vous riez encore, vous connaissez les séquences,
ouais,
ça vous fait encore marrer.
Il y a un truc que j'adore dans ce programme, c'est d'envoyer sur ces routes des binômes qui n'ont pas forcément toutes les qualités pour être de grands aventuriers. Et je trouve que ça donne un spectacle formidable, et d'un, et de deux, que ça permet à tout le monde, devant son téléviseur, de s'imaginer à son tour participer à cette aventure. Et donc, envoyer des gens qui n'ont jamais voyagé, des gens qui ne sont pas sportifs, des gens qui ne parlent pas anglais, et ben, je trouve que ça permet d'avoir un programme qui nous ressemble un peu à tous. Donc, et ça donne des situations drôles. Il y a aussi beaucoup de moments touchants dans ce programme, avec ces gens-là aussi. Enfin voilà, je trouve que c'est un cocktail qui...
Exactement. Et je vais raconter tout à l'heure les moments touchants, parce qu'il y a des images qu'on ne peut pas passer évidemment à la radio, mais que je pourrais raconter. Vous restez avec nous, Thierry Guillaume, vous êtes le producteur de Pékin Express, et on ne l'a pas encore dit, mais j'avais teasé là-dessus, le tournage a été dans des conditions dantesques. Vous nous raconterez comment et pourquoi. Pourquoi, on le sait un peu, c'est la crise du Covid, mais pas seulement. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Thierry Guillaume, c'est le producteur de Pékin Express au sein de la société Label Aventure qui produit Pékin Express. Pékin Express, la 14e saison qui démarre ce soir, c'est sur M6 à 21h. J'imagine que comme moi, vous avez lu ce matin Le Parisien.
Oui.
Il faut un papier sur le lancement de l'émission avec ce titre, Une saison en enfer. Vous avez affronté la pandémie, vous avez affronté un accident de voiture mortel. Si j'ose dire, comment s'est passé le tournage?
Alors honnêtement, ça a été pour moi, c'est ma 11e saison en tant que producteur. Ça a été la saison la plus difficile à produire.
Oui, vous êtes sur place en tant que producteur ou vous n'êtes pas dans le bureau à Paris?
Non, je suis toujours sur place parce que c'est une grosse machine avec 100 personnes qui se déplacent tous les jours, une vingtaine de véhicules, et c'est une production qui se pilote à la minute parce qu'il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand.
Je vais donner les dates. Ça démarre le 28 février. La France, à l'époque, n'est pas encore confinée. Vous tournez en Ouganda. Les extraits qu'on vient d'entendre, ça se passe en Ouganda. Tout allait bien. Et puis, vous mettez le cap, ce qui était prévu, sur l'Éthiopie. Entre-temps... il y a le Covid qui arrive et déjà les locaux vous voient débarquer en criant Covid, Covid.
Ouais, ça c'est on est déjà à la moitié du début du tournage parce que quand on arrive en Ouganda, il y a quasi rien. Quand j'arrive en Ouganda, j'apprends 3 jours plus tard que l'Ouganda ferme ses frontières aux Français parce que ça commence à arriver chez nous. On tourne en Ouganda, on est à peu près dans une bulle et puis on prend un avion pour aller en Éthiopie et là le Covid se répand à travers la planète, ça devient une pandémie mondiale et en arrivant en Éthiopie, on transfère vers le nord du pays et là on entend les gens qui nous voient passer, nous blancs, dans ce pays qui nous crient effectivement Covid, Covid, c'est en train la pandémie est en train d'envahir le monde.
Le 16 mars, Emmanuel Macron à Paris annonce le confinement, le territoire aérien, l'espace aérien français est fermé et là vous prenez une décision très difficile.
Oui, je décide de rapatrier tout le monde, en fait j'attendais ce moment-là, je me doutais que ça allait arriver, mais tant que cette décision n'était pas prise, je me disais on continue à tourner parce que je veux finir cette saison. Et puis quand Emmanuel Macron annonce la fermeture de l'espace aérien européen, je me dis je ne peux pas prendre le risque de bloquer 100 personnes en Éthiopie parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et là, on décide d'arrêter le tournage, terrible décision, et d'affréter un avion pour rentrer tous à Paris.
Terrible décision également du point de vue économique parce qu'on ne savait pas combien de temps ça va durer. Le 13 juillet, finalement, la situation s'assouplit, si j'ose dire. Fin du confinement, vous reprenez le tournage. Mais non pas en Afrique, direction la Grèce puis la Turquie. Pour quelle raison?
Alors en fait, pour préparer un tournage, on a besoin de au moins 4 mois. On écrit, on repère avec des médecins, etc. Donc cette décision de partir tourner en septembre, on l'a prise au mois de mai. Au mois de mai, on n'avait encore aucune visibilité. J'ai simplement fait un pari en me disant, oui, j'entendais des gens qui disaient à la fin de l'été, probablement qu'il y aura une fenêtre de tir. Donc on a parié là-dessus. Effectivement, on est reparti en septembre, mais Mais trois jours avant de partir, on se posait encore la question de savoir si on allait partir, parce que les cars, le nombre de cars remontait en France. Et comme vous l'avez dit, il y a ça a des répercussions économiques. Quand on interrompt un tournage, il n'y a pas d'assurance.
Mais ce n'était pas possible de repartir, tourner en Afrique.
Non,
vous étiez obligé de changer
parce qu'au mois de mai, on ne savait pas comment la situation allait évoluer en Afrique. On se doutait que dans l'espace Schengen, ça serait à peu près... un peu plus calme.
Alors, vous avez mis en place des règles sanitaires drastiques en Grèce et en Turquie. J'ai pas vu les épisodes, j'ai vu seulement le premier. Mais ce que j'ai lu, vous allez me le confirmer ou non, les candidats portent vraiment des masques transparents toute la journée.
Non, pas toute la journée. En fait, ils ont des masques quand ils sont dans les voitures. Mais quand ils font des jeux, des épreuves en extérieur, ils n'ont pas de masque. Quand ils sont chez les locaux en extérieur, ils n'ont pas de masque. Ils respectent des distances de sécurité. Mais ils n'ont pas des masques en permanence.
Mais alors, déjà, c'est pas facile de trouver à dormir chez l'habitant, surtout quand on sait pas parler anglais et qu'on est en train de s'engueuler devant les gens. Mais là, ils doivent dormir chez l'habitant, ai-je lu, dans des chambres séparées.
Non.
Donc il faut un habitant qui gagne bien sa vie quand même.
Ils doivent trouver une chambre dans laquelle ils vont être les seuls à dormir, pas avec les locaux, et il faut qu'il y ait une fenêtre. Mais oui, le Covid a rendu l'aventure encore plus difficile pour nos candidats, mais ils ont réussi, ils ont réussi.
Mais tous trouvent toujours à dormir, ou parfois vous devez en rapatrier et les faire dormir dans une tente.
Non, ça n'existe pas. Quand ils ne trouvent pas d'endroit pour dormir, ils dorment dehors où ils peuvent, soit dans les jardins des locaux, c'est arrivé, soit carrément dans des parcs, etc., etc.
Comme si ça ne suffisait pas, le 21 septembre, sur une route de Turquie, deux voitures de Pékin Express avec des candidats et des techniciens sont percutées par le véhicule d'un octogénaire qui décède à son arrivée à l'hôpital.
Plus tard, oui.
Que se passe-t-il ensuite ?
Alors là, quand l'accident se produit, évidemment, la première réaction, c'est de... On est préparé à ça, on y pense, parce que c'est le plus gros risque qu'on a sur ce tournage. On a, comme je vous le disais, une centaine de personnes en voiture, 6 heures ou 7 heures par jour. Donc les statistiques font que ça devait nous arriver un jour. Là, évidemment, on traite l'accident immédiatement, nos médecins interviennent, on envoie tout le monde à l'hôpital. On arrête le tournage pendant 12 heures. Et le lendemain matin, en fait, les médecins nous ont donné des nouvelles de nos techniciens, de notre binôme de candidats. Et comme ils étaient tirés d'affaire, on a décidé de reprendre le tournage.
Comment vous avez annoncé ça dans les émissions ? Moi, je n'ai pas vu les futurs épisodes, c'est déjà monté.
Oui,
vous ne dites
c'est...
pas qu'il y a eu mort d'homme ou vous le dites ?
On le dit. On le dit, on raconte tout, on est absolument transparent dans ce programme. Et on raconte quand ça s'est passé, comment ça s'est passé, quelles ont été nos décisions et tout ce qui est arrivé. On raconte.
Vous êtes le producteur chez La Belle Aventure de Pékin Express. Est-ce qu'il y aura une saison 15 ou est-ce que vous attendez les audiences demain matin ? Je vois que ça vous fait sourire cette question.
Oui, parce que la question arrive tous les ans.
Évidemment.
Alors, je travaille déjà sur une saison 15. Elle n'est pas encore confirmée par la chaîne qui va effectivement attendre quelques épisodes pour confirmer la saison. Mais oui, j'y réfléchis déjà. Et j'y réfléchis aussi avec les contraintes sanitaires en essayant déjà d'anticiper les choses.
Ouais. Il faut faire quelle audience pour qu'il y ait une nouvelle saison ?
Alors ça, je ne vais pas donner de chiffres, mais l'année dernière, on était à 13 en 4 ans et plus, et 23% en ménagère. Il faut qu'on soit à ce niveau-là, ou un petit peu en dessous, ou un petit peu au-dessus. Ça serait très bien pour nous.
Merci beaucoup Thierry Guillaume.
Merci.
On entend le générique de Pékin Express dont la 14e saison démarre ce soir sur M6 à 21h. Et vous êtes le producteur de l'émission. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Culture Média continue. Après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un documentaire en hommage aux agriculteurs et Bertrand Chamerois pour son écran de veille avec un air de déjà-vu. Notre invité, c'est Éric Emmanuel Schmitt, le romancier, écrivain, dramaturge pour La Traversée des Temps, une grande série très ambitieuse de romans sur l'histoire de l'humanité. 8000 ans d'histoire en 8 tomes. Et puis, dans les indispensables, en revenir sur la fin du duo Daft Punk, pionnier de la French Touch. Et c'est Angèle Châtelier qui va nous dire quel morceau écouter. Elle va nous faire une sorte de best-of. Et puis, une fabrique d'aliens qui débarque dans une nouvelle série d'animation pour adultes. C'est aussi une nouvelle chaîne, elle s'appelle Star. Et c'est lancé par Disney+ aujourd'hui. À tout de suite.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs ? Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.